disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Aujourd'hui, Max, l'open mic prend son sens. Puis autant que c'est des moments, des fois, que je trouve difficiles parce que t'entends des histoires qui sont tristes, qui sont plates, qu'on doit dénoncer, autant que je sens que, justement, on sert à quelque chose. Mm-hmm. On parle aujourd'hui avec Lisanne Masson, fille de Simone Pellerin, qui est une femme de 80 ans, qui est atteinte de démence, qui a commencé aux alentours de 55 ans. Lisanne vient nous parler aujourd'hui pour dénoncer, je veux dire, les zones grises qui concernent les demandes de soins palliatifs exclusifs, la fin de vie, bref, OK? Fait que c'est un sujet qui est quand même très délicat, mais profondément humain, qu'on a tous vécu de près ou de loin. La fin de vie, justement, la dignité, j'ai envie de dire, ça entre là-dedans. Les zones grises, justement, du système de santé quand survient une démence très avancée. Ce que je trouve spécial dans cette histoire-là, c'est que je crois comprendre que les souhaits étaient clairs quand la démence n'était pas encore avancée. C'est là où je ne comprends pas comment notre système de santé ne prend pas en considération cette information-là. Donc, c'est un dossier qui soulève beaucoup de questions éthiques et médico-légales. Puis 88-971-1021, peut-être vous avez des histoires semblables, des choses à ajouter sur ce qu'on va discuter aujourd'hui, parce que à partir de quand les soins deviennent de l'acharnement? Comment tu interprètes le consentement chez une personne qui est atteinte de démence sévère? Dans ce cas-ci, on avait déjà ce consentement-là, de ce que je comprends. Les volontés exprimées, justement, est-ce qu'ils sont réellement respectées? Il y a beaucoup de questions à prendre en compte. Lisanne, bon matin.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de venir partager ton histoire avec nous ce matin. J'ai envie, avant qu'on entre dans ce volet-là qui est peut-être un peu plus triste, actuel, un peu plus décourageant, qu'on parle de Simone, qu'on parle de ta maman avant la maladie, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Là. Avant, c'était une femme qui avait probablement une personnalité super pétillante, qui avait des activités, qui avait son quotidien, puis qui avait des désirs pour sa fin de vie, puis là, on est malheureusement au moment où ils ne sont pas respectés. Fait qui était Simone?
Bien, Simone, c'était une femme très fière, une femme très engagée. Ses principales qualités, là, c'était une intellectuelle, elle avait une mémoire phénoménale, elle était toujours dévouée pour une cause. Elle a réclamé, tu sais, dans ses années à elle, beaucoup sur le droit de la femme, le respect de la personne. Donc, c'était une personne très engagée qui avait des convictions. C'est quelqu'un qui a affirmé toute sa vie ne pas vouloir se voir dégénérer comme ça. Puis, elle vantait les personnes âgées qui avaient des belles fins de vie, comme sa propre mère a eu. Elle était vraiment très fière de ces gens-là, mais exprimait clairement qu'elle n'aurait pas voulu se voir dépérir.
Oui, puis j'ai l'impression qu'on est une gang à penser comme ça. Qui veut ça, en fait? C'est plus ça la question, là.
Exactement. Quand je vais la visiter puis que je regarde les gens autour d'elle, des fois, je me questionne justement, ils étaient qui, ces gens-là?
Oui.
Parce qu'en ce moment, ils ne se ressemblent pas. Puis ma mère, physiquement, elle ne se ressemble plus non plus.
Les volontés, quand elle parlait justement de fin de vie, bon, sont claires, elle ne voulait pas se rendre là. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir les premiers signes de démence? Tu m'as envoyé aux alentours de 55 ans. C'était quoi ces signes-là?
Bien, à ce moment-là, c'était seulement des pertes de mémoire. T'sais, on parlait de la retraite, elle devait répéter beaucoup les informations qu'elle recevait. C'était plus ses chums proches qui avaient commencé à le remarquer.
C'était plus anodin un peu, là.
Oui, c'est ça. Ça commence insidieusement comme ça, puis tranquillement, des pertes de mémoire, on voit qu'il y a un petit peu d'agressivité qui s'installe quand on la reprend, qu'on répète. Ça, c'est des bouts qui sont difficiles. Là. Les familles qui savent de quoi je parle, là, on sait que ces bouts-là sont très, très exigeants pour les proches. Parce que la personne, elle, ne se rend pas nécessairement compte qu'on est en train de répéter. La personne ne comprend pas pourquoi nous, on devient un peu impatient de répéter. Et dans la maladie, bien, il y a une forme d'agressivité qui se développe à cause de la maladie, mais à cause de cette souffrance-là aussi. T'sais, on ne sait pas trop l'œuf ou la poule.
Mais
oui, c'est des années très, très souffrantes. Où est-ce qu'elle est consciente de ce qui se passe, qu'elle le refuse, qu'elle le dénie, qu'il y a tous les temps? Puis ensuite, ben ça dégénère un peu plus physiquement.
Pourquoi c'est important de raconter ton histoire publiquement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches de ça?
En fait, on va aboutir à ce que, en ce moment, le conseil de tutelle de Simone, parce qu'on est sous curatelle privée, nous, on a écrit une lettre et on a fait une demande de soins palliatifs exclusifs, parce qu'on considère que les soins que Simone reçoit, ce sont des excellents soins. Le personnel, là, je veux juste le dire tout de suite, le personnel est génial, c'est des humains extraordinaires. Oui. Elle reçoit des bons soins.
C'est juste plus adapté à sa situation.
À sa situation, à elle, parce qu'on ne comprend pas le but de maintenir en vie des gens qui ne le souhaitent pas. il y a beaucoup d'argent, tu sais, outre la partie là, émotionnelle, là, c'est ma mère, là. Mais il y a un investissement de ressources dans notre système de santé qui est mis à garder en vie des humains qui ne le souhaitent pas.
C'est malheureux, mais ce sont des questions qu'on doit se poser avec une population vieillissante, avec Absolument. Les conditions de notre système de santé. Puis je trouve ça, je ne sais pas si rassurant est le bon mot, intéressant d'avoir une fille de maman dans cet état-là qui est capable justement d'en parler en se détachant un peu de la situation, parce que c'est pour la dignité de notre proche, mais c'est aussi justement au niveau sociétal que c'est un problème.
Exactement, c'est ça l'enjeu. Pourquoi je suis ici, c'est que nous, notre demande de soins palliatifs exclusifs a été refusée. On pourra y revenir, là, plus les détails de la situation de ma mère et puis tout ça. Mais moi, ce que je dénonce, c'est qu'on me demande d'aller en cours et de poursuivre l'établissement qui est le CIUS. Donc, c'est énorme. Moi, je serais prête à faire la démarche pour ma mère. Peut-être qu'elle n'en bénéficiera pas parce que ça va être long et ça va être coûteux. Je serais prête à le faire pour le bénéfice des autres. Ça me ferait plaisir et Simone serait fière d'être l'ambassadrice des droits de la personne en fin de vie, de la dignité, etc. Par contre, je suis contre le fait que c'est contre l'efficacité du système. Nos fonctionnaires qui vont perdre du temps en cours contre moi, mais ils ne sont pas en train d'améliorer notre système. C'est un mauvais investissement de ressources de m'amener en cours, alors qu'il y a déjà des définitions, des choses qui sont discutables, comme par exemple dans la loi concernant les soins en fin de vie. Il y a toutes sortes de phrases que j'ai devant moi ici où est-ce qu'on pourrait discuter. Ce que nous, on demande de cesser les soins et de mettre ma mère en soins palliatifs exclusifs, ça s'est déjà fait. Fait qu'il y a une question d'ouverture d'esprit de l'équipe traitante. Donc, en ce moment, on nous refuse le soin. On nous dit que l'établissement a l'obligation de prodiguer des soins de base. Ils disent qu'ils ont l'obligation de respecter l'acceptation des soins et de tolérer les refus. Mais ma mère, elle est dans un état présentement où est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'elle accepte ou qu'elle refuse, on est plus dans un état de réflexe.
Oui, on n'est plus là, là. Puis le pire, puis c'est triste ce que je vais dire, mais probablement que même le personnel voudrait donc bien adhérer à votre demande, mais c'est une affaire de système. Puis tu dis, Lisanne, je serais prête là, à aller au combat puis à le faire pour ma mère, mais me dire que moi, humainement, là, avec un recul, je trouve ça quand même épouvantable d'imposer ça à une famille qui doit déjà vivre avec la situation dans laquelle vous vivez. Tu as le courage de venir ici ce matin, tu as le courage d'en parler puis de le faire pour ta mère, mais je veux dire, combien de personnes ne seraient pas capables de le faire? Puis en passant, c'est pas un désaveu, c'est vraiment juste de dire, c'est déjà assez difficile, Colin. Tu sais que ta mère est en fin de vie, c'est un être proche, c'est un être cher. La démence, c'est pas facile d'être proche aidant. C'est tout ça qui entre en compte aussi, là. L'état actuel de Simone, c'est quoi?
L'état actuel de Simone, encore là, avec tout le respect que j'ai pour ma mère, on pourrait la comparer un peu à une plante verte, malheureusement. Elle se fait lever par un lève-patient de son lit. On la transfère dans un fauteuil roulant, on l'habille, on lui sert une purée. Donc, on appuie une cuillère sur ses lèvres et elle ouvre la bouche pour l'avaler. Et c'est ce qu'on dit qu'elle accepte la nourriture. Je considère que c'est plus un réflexe.
Mais oui, voyons.
Lorsqu'on l'habille, qu'on la lave, qu'on la peigne, elle était très agressive, elle jurait, alors que c'était quelqu'un qui parlait, c'était pas son genre. On lui a donné des médicaments pour contrôler son agressivité. Donc, l'équipe va nous dire qu'elle accepte ces soins de base-là parce que maintenant, la médication contrôle l'agressivité. Donc, elle a les yeux clos toute la journée. Quand elle les ouvre, on le sait qu'elle nous voit pas, même si on est très proche d'elle. Elle bavarde occasionnellement toute seule. On ne comprend pas trop le fil de ses pensées, donc on n'est pas capable de suivre. Des fois, elle répond au bon moment quand on pose une question, mais est-ce que c'est un hasard, tu sais, de nous exprimer qu'elle a une douleur, qu'elle soit physique, qu'elle est consciente de ça puis qu'elle en souffre? On ne le sait pas. Elle ne peut pas nous l'exprimer. Ce qu'on sait, c'est qu'avant d'être là, par contre, elle a tout refusé. Tant qu'elle était capable, même à domicile, pour assister mon père, on a essayé de rentrer des préposés. Elle a tout refusé. Elle préférait le décès que de se rendre à ce genre d'assistance-là.
Puis comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un papier qui signe dans ce temps-là? Est-ce que, tu sais, quand on demande l'aide médicale à mourir, là, ils disent que tu as un papier à signer, justement, puis je sais pas comment ça fonctionne, je me suis pas retrouvée dans cette situation-là. Mais je me dis, si elle refuse, elle refuse, elle refuse, c'est pas ça qui manque, peut-être, le moment où tu... Tu sais, on signe, là, pour le don d'organes.
Oui.
Il y aurait pas moyen de faire la même affaire pour ce qui est des soins de fin de vie?
Il y a deux choses là-dedans, c'est que la loi sur l'aide médicale à mourir, elle n'était pas passée dans le temps que ma mère, elle était encore considérée apte, donc elle était lucide. Donc, elle n'a pas pu faire ce qu'on appelle maintenant une demande anticipée. Okay. Donc, ça, c'est une belle amélioration, ça existe. Par contre, Simone, elle ne peut pas en bénéficier comme beaucoup de monde dans sa situation.
Elle tombe entre deux craques de chaise.
Oui. Exactement. Ou si la personne, du moment qu'elle n'est pas encore déclarée inapte, si elle n'a pas fait une demande anticipée, bien, elle n'y aura plus accès à partir du moment qu'elle est considérée inapte. Mmh. Donc ça, c'est pour l'aide médicale à mourir. Ça, c'est demandé comme l'euthanasie. Ça n'existait pas avant, maintenant, ça l'existe. Par contre, un soin palliatif, c'est juste d'arrêter les traitements curatifs et tout ce qui maintient la personne en vie. Puis dans le cas de ma mère, on peut dire artificiellement en vie parce qu'elle ne trouve aucun bénéfice, aucune jouissance, elle n'a plus de qualité de vie. C'est très souffrant pour elle, si elle peut s'en rendre compte, et c'est très souffrant pour nous, ses
évidemment.
Proches.
Est-ce que tu sais si, mettons, si elle avait signé un genre de papier il y a plusieurs années, si ça aurait pu aider dans la situation ou bien si c'est tellement en ce moment dans un genre de, justement, de creux où on ne sait pas trop concernant cette situation-là et non l'aide médicale à mourir que ça aurait comme rien donné?
Bien, en fait, j'ai devant moi un mandat en cas d'inaptitude qu'elle avait signé en 2008 alors qu'elle était encore tout à fait apte à le faire. Et elle écrit de sa main qu'elle préfère le décès plutôt que la vie avec des séquelles ou des restrictions majeures. Elle l'a écrit, je l'ai devant moi ici.
Avec signature.
C'est pas assez.
Oui. Et ce n'est pas assez pour l'équipe traitante en place. Peut-être que d'autres médecins l'accepteraient. En fait, en ce moment... Bien, si on va en cours, c'est un très gros argument parce que n'importe quel avocat va vous le dire, elle l'a signé de sa main. Elle, c'est sa demande. On se doit de le respecter.
Mais ça, le personnel ne peut pas le prendre en compte. Comment les médecins ont réagi à votre demande? Comment, en fait, est-ce que vous sentez que les professionnels comprennent votre point de vue humainement?
Humainement, je peux dire que oui, il y a une certaine compréhension, mais ça a été difficile. Une autre chose que j'ai envie de dénoncer à travers ça, c'était justement la difficulté de communiquer avec l'équipe traitante. Moi, j'ai commencé mes démarches il y a plusieurs mois. À ce moment-là, on m'a dit que je ne pouvais pas rencontrer le médecin. J'ai fait mes devoirs et j'ai trouvé un article légal qui me dit qu'un patient en CHSLD a toujours le droit de communiquer avec son médecin et ses représentants si le patient est inapte. Donc, ce n'est pas vrai que je n'ai pas le droit de parler au médecin. Ensuite, on m'a refusé une rencontre, alors que dans le même article de loi, on dit qu'une rencontre avec l'équipe multidisciplinaire ne peut pas être refusée à la famille. Donc là, on m'empêche de parler au médecin, ça prend des semaines. J'ai fini passer par une adjointe administrative, écrire une lettre.
Mon Dieu, Seigneur.
Parce qu'on ne voulait pas me donner de rendez-vous ni me prêter le téléphone.
On vous rend la vie difficile, c'est un méchant temps, là.
Oui, et puis je trouve ça incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi ça a lieu.
Puis c'est surtout qu'à un certain point, t'sais, ce que je trouve plate, c'est que la seule façon de s'en sortir, visiblement, c'est d'amener le judiciaire là-dedans. Mais ça va vous coûter des sous. Vous êtes déjà brûlé émotionnellement. J'ai comme de la misère à comprendre qu'on saisit pas ça. Puis pourtant, c'est logique. Là. Comment? Parce que vous avez l'air assez solide. Là. Je veux dire, toi, en soi, Lisanne, là, j'ai pas le choix de te le dire. T'es toute là. Mais pour le conseil de tutelle dont tu me parles, la famille, là, comment ça réagit? Comment ça se sent?
Bien, c'est sûr que étant infirmière, j'ai peut-être une conscience professionnelle puis une capacité à gérer cette partie-là qui serait plus émotive si j'étais pas dans le domaine de la santé. Mmh. Fait que oui, je représente ces gens-là qui, eux, émotionnellement, le vivent très, très, très difficilement. Puis tu sais, je dis ça, mais chaque fois que je vais visiter ma mère, j'ai le moton dans l'auto avant d'y aller. Puis je m'effondre en larmes à chaque fois. La dernière fois, ça a été dans l'ascenseur, sinon c'est dans l'auto. Des fois, c'est dans la chambre. Mais la partie humaine, la partie qui concerne ma mère de la voir comme ça, c'est éprouvant. Mon père, qui n'est pas un homme qui pleure de sa génération, ça ne pleurait pas.
Mais oui, c'était
fait
fort.
Il me l'a avoué qu'à chaque fois qu'il va la visiter, même si c'est à chaque semaine, il ne s'y fait pas et il s'effondre dans la voiture à chaque fois qu'il sort de là.
Oh mon Dieu, ouais. J'ai envie, Lisanne, parce que je vois le temps passer puis la situation est très claire. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager avant qu'on se laisse dans toutes tes démarches, dans tout ce que tu veux transmettre comme message? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter?
Bien, en fait, nous, on aurait fait cette demande-là bien avant si on l'avait su. Il y a un concours de circonstances qui fait que là, j'ai eu des discussions avec des médecins de soins palliatifs, des avocats, et le concours de circonstances a fait que j'ai découvert que je pouvais faire la demande. Donc, ce que je voudrais dire aux familles qui souffrent, qui ont l'impression de vivre un acharnement, que ce que les proches vivent, c'est plus une torture qu'une assistance médicale, mais ils ont premièrement le droit de parler à l'équipe traitante et ils ont le droit de faire des demandes de soins palliatifs.
On n'est pas au courant de ces choses-là. Et on souhaite que ça fasse son bout de chemin. Vraiment, bon courage. Puis merci d'avoir pris le temps ce matin. J'ai l'impression que tu es la voix de plusieurs dans cette situation-là.
Malheureusement. Merci à vous.
Au retour, Nathan Meilleur pour sa chronique du jour et les nouvelles avec Mathias Turcotte. On fait aussi un petit tour de sport et vous rappeler, parce que ça date d'il y a quelques minutes, là, mais veille d'orage violent à Québec cet après-midi, ce soir. Les conditions sont propices, nous dit Environnement Canada, à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte. Et il y a aussi un risque de tornade avec les orages. 11h24 dans le Point de Max.
L'Open Mic avec Audrey